Bien, je crois que nous pouvons reprendre. Et donc, entre parenthèses, on va voir deux extraits du film de Au Judéo, les deux scènes qui représentent deux moments de la représentation de Don Quichotte sur le théâtre des marionnettes du Bairro Alto. Mais je ne vais pas le mentionner expressément dans mes commentaires, parce que sinon nous aurions peut-être des problèmes pour les droits de reproduction et de présentation. Alors ne vous étonnez pas si mon discours vous paraît un peu bizarre, je vais faire des allusions à ce film comme si nous ne l'avions pas vu, de façon à ce que pour l'enregistrement sur France Culture, sur le site du collège, il n'y ait pas l'idée que l'on a présenté sans demander des autorisations sans doute assez compliquées à demander. Et je veux dire que mon DVD est un peu un aspect un peu DVD pirate aussi. Donc on va laisser ça. Alors ne soyez pas surpris par une manière un peu bizarre de parler que je vais essayer de contrôler de manière à ne pas mentionner que nous avons vu ce que nous allons voir. Donc nous sommes en 1733 à Lisbonne et est représentée cette pièce. Et la première scène que l'on voit, c'est lorsque, dans la deuxième partie du Quichotte, au chapitre 11, Don Quichotte et Sancho rencontrent des comédiens qui sont en route pour des représentations d'un auto-sacramental. Alors on peut peut-être... Donc c'est un... Bon.
Senhora Dona Leonor de Carvalho, venha à janela!
Não tema, gentil senhora. Eu venho da parte de um amigo acanhado que nunca foi à corte e não tem instrumentos para cortejá-la. O coitado não tem sequer coragem de encará-la de frente. Mas como sofre de amor ardente, um imbecil maquinou um estratagema para enviar à senhora um poema. Concorda?
Claro.
Ainda bem, pois está disposto a fazê-lo. Concorda ou sem corda? Ora morro, ora vivo, ora fago, ora rio, ora choro, ora me assanho, ora já, ora não, e ora logo. Ora almejo, ora perco e ora ganho. Ora neve, ora fogo. Estranho variar de amor estranho. Será que eu agradei?
Agradou em cheio. Mas eu queria saber, senhor fantoche, quem é o autor desses versos?
A senhora não imagina?
Não.
Ei, ô fariseu! Acabou-se a minha parte, está na hora de entrar em cena!
Você vem comigo ao teatro?
Ai, miserável Sancho, em que enrascada estás metido! Melhor me fora estar na minha aldeia, como dantes, e não à frente desse bando de gigantes!
Do que tens medo, covarde? Olha, não vês estes gigantes vivos? Pois logo os verás mortos! Ovo! Quem quer desejar? Dizem-me quem sois e aonde vives!
Senhor! Aguardai! Nós somos uns pobres representantes de comédias que vamos já vestidos para fazer um alto. Alto sacramental. É uma quinta aqui perto. Eu faço o papel de diabo. Este de anjo Felisberto. Este de morte. Este de imperador do Japão. E os demais fazem figuração.
Dans le film de Azoulay, la première apparition d'une marionnette, sans doute empruntée au théâtre du Bairro Alto, est utilisée par le dramaturge Antonio José da Silva pour faire sa cour à celle qui deviendra sa femme, Leonora. Et cette séquence-là est suivie par la fragment de la rencontre entre Don Quichotte et Sancho, et d'autre part la troupe des comédiens itinérants, ambulants, qui représentent des autos sacramentales, c'est-à-dire des pièces religieuses qui représentaient durant la semaine du Corpus Christi. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment le point de départ est donc dans le texte du Quichotte, deuxième partie, 1615, chapitre 11, je cite. Don Quichotte allait répondre à Sancho, mais il en fut empêché par une charrette qui parut au détour du chemin chargée des figures et des personnages les plus divers et les plus étranges qu'on puisse imaginer. Celui qui guidait les mules et faisait office de charretier était un horrible démon. La charrette était découverte, roulant à ciel ouvert, sans bâche ni clés. Et la première figure qui s'offrit aux yeux de Don Quichotte fut la mort, en personne, avec un visage d'homme. Elle avait auprès d'elle un ange aux grandes ailes peintes et à ses côtés un empereur coiffé d'une couronne qui avait l'air d'être en or. Au pied de la mort se tenait le dieu que l'on appelle Cupidon, sans bandeau sur les yeux mais avec son arc, son carquois et ses flèches. Il y avait aussi un chevalier armé de pied en cap, à ceci près qu'il ne portait ni morion ni salade, mais un chapeau garni de plumes de diverses couleurs et d'autres personnes encore aux costumes et aux masques variés. Cette vision surgit à l'improviste, troubla quelque peu Don Quichotte et remplit d'effroi le cœur de Sancho. Mais Don Quichotte se réjouit aussitôt, persuadé que c'était une nouvelle et périlleuse aventure qui s'offrait à lui. Dans cette pensée, l'âme prête à affronter tous les dangers, il se plaça devant la charrette et lança d'une voix forte et menaçante « Chartier, cocher ou diable, ou qui que tu sois, dis-moi sans tarder qui tu es, où tu vas et quels sont ces gens que tu transportes dans ton chariot qui ressemblent plus à la barque de Caron qu'à une charrette ordinaire. » Monsieur, répondit paisiblement le diable en arrêtant la charrette, nous sommes des comédiens de la compagnie d'Angulo le Mauvais. Nous avons joué ce matin, qui est celui de l'octave, le huitième jour de la fête Dieu, Corpus Christi, l'auto de Cortés de la Morte, dans un village qui se trouve derrière la colline, et cet après-midi, nous devons le jouer dans ce village que l'on aperçoit d'ici. Mais comme il est si proche, et pour nous épargner la peine de nous déshabiller et de nous rhabiller, nous avons gardé les mêmes habits que ceux que nous portions pour jouer. Ce jeune homme, celui de la mort, cet autre, celui de l'ange, cette femme, qui est celle du directeur, est costumée en reine. Celui-ci fait le soldat, celui-là l'empereur, et moi, le diable. Et je suis l'un des principaux personnages de la pièce, parce que dans la troupe, c'est moi qui tiens les premiers rôles. Alors, voilà le texte de départ, adapté dans un premier mouvement par Antonio José da Silva, qui le concentre. Et c'est cette adaptation qu'utilise le réalisateur brésilien, mais en la transformant quelque peu, parce que si l'on suit le texte de José Antonio da Silva, on a la réduction de la réplique du diable, le principal personnage de la compagnie, en « Seigneur, nous sommes une pauvre troupe de comédiens, déjà en costume, pour jouer un auto sacramental dans une propriété par ici. Moi, je joue le rôle du diable, lui d'un ange, lui de la mort, lui d'un empereur, et les autres jouent plusieurs rôles. » Alors, Don Quichotte leur répond dans la pièce d'Antonio José da Silva, « Eh bien, il faut toujours réfléchir à ce qu'on fait avant de le faire. Si vous ne vous étiez pas déclaré, vous seriez tous morts à l'heure qu'il est, car je pensais que vous étiez des géants ou des enchanteurs. » Et j'utilise la traduction qui avait été jouée à la Comédie française, qui est la traduction de Marie-Hélène Pivnik, une grande spécialiste de la littérature portugaise. Comme on le voit dans le film, l'adaptation du réalisateur a été d'ajouter l'ange n'est pas seulement un ange, mais c'est l'ange Felisberto. L'empereur n'est pas seulement un empereur, mais c'est l'empereur du Japon, l'empereur du Japon. Donc il y a une distance que l'on retrouve d'ailleurs dans un deuxième extrait choisi par le réalisateur brésilien pour montrer ce que pouvait être cette écriture pour le théâtre des marionnettes et d'autre part ces représentations des marionnettes. Et vous avez entendu le terme fantoches, les noms de ces marionnettes peuvent être bonifrates, bonecos, figuras artificiais, tout un ensemble, mais nous y reviendrons plus tard. Dans le film de John Tobb, Azulay, il choisit une seconde séquence, c'est lorsque Sancho est devenu gouverneur de son île, dans la deuxième partie du Quichotte, les chapitres de 45 à 53, et qu'il rend la justice. Et dans le film d'Azulay comme dans la pièce de Antonio José da Silva, Sancho fait ce qu'il ne fait pas dans l'histoire écrite par Cervantes, un commentaire de l'allégorie de la justice qui a les yeux bandés, qui tient une épée dans une main et une balance dans l'autre.
Sancho pensa acerca da justiça.
Sabei, primeiramente, que isto da justiça é coisa pintada. Pois tal mulher não há no mundo, nem de carne, nem de sangue. Porém, como era necessário haver tal figura para meter medo à gente pobre, pintaram uma mulher vestida à moda trágica. Porque toda a justiça acaba em tragédia. Num passe de mágica, taparam-lhe os olhos para não verem que era vesga. A espada na mão significa que tudo há de levar a peito, a torto e a direito. Na outra mão, para trapacear no peso, tem uma balança torta. É uma moça muito viva, embora natimorta. E mesmo sendo muito virgem, às vezes se amanceba com um nababo. E tem sempre quem lhe vá ao rabo.
La scène de Sancho commentant, glosant la représentation soit peinte, soit sculptée de la justice n'existe pas dans le Don Quichotte. Dans le Don Quichotte, l'histoire se lie à cette promesse faite extrêmement tôt par Don Quichotte à Sancho, dès le moment où il le rencontre lors de la Segunda salida, de la deuxième sortie de Don Quichotte, qui décide de sortir en compagnie de son voisin, qu'il va prendre comme écuyer, et qui est Sancho Panza. C'est au chapitre 7 de la première partie, en 1605. Donc l'idée de Sancho comme gouverneur possible du Nil, qui serait la récompense de ses bons services, est très précoce dans le texte de Cervantes, puisqu'elle apparaît dès ce septième chapitre. Voilà. Durant ce temps-là, Don Quichotte sollicita un laboureur de ses voisins, homme de bien, si tant est que l'on puisse appeler ainsi celui qui est pauvre, mais avec fort peu de plomb dans la cervelle. Au bout du compte, il lui dit tant, le persuada tant et lui promit tant que le pauvre manant résolut de partir avec lui et de lui servir d'écuyer. Entre autres choses, Don Quichotte lui disait de se préparer à aller avec lui de bonne grâce, car il pourrait bien lui arriver telle aventure qu'il gagna en un tournement quelque île et l'en fit gouverneur. Avec ses promesses et d'autres semblables, Sancho Panza, c'est ainsi qu'il s'appelait le laboureur, laissa là sa femme et ses enfants et s'enrôla comme écuyer de son voisin. Donc très tôt, la récompense de Sancho devrait être d'être le gouverneur d'une île qui serait conquise par les exploits de Don Quichotte. Et c'est un thème, un leitmotiv, dans la première partie et dans la seconde partie, des récriminations de Sancho, qui réclame en permanence son île, cette insula, comme dit le texte de Cervantes, qui lui a été promise. Et cette récrimination devient réalité de gouvernement lorsque, dans la deuxième partie, dont vous vous souvenez peut-être moins que de la première, Sancho et Don Quichotte rencontrent le duc et la duchesse dans leurs itinérances, qui sont deux personnages qui ont lu la première partie du livre et qui donc savent quelle est la folie de Don Quichotte et pour s'amuser, pour se distraire, accueillent Don Quichotte et Sancho dans leur résidence. Et parmi de très nombreux tours et mauvais tours qui sont joués à la fois au chevalier errant et à son écuyer, se rencontre celui de la remise du Nil par le duc à Sancho, qui enfin devient gouverneur, comme dès le chapitre 7, Don Quichotte le lui avait promis. Et dans les chapitres 45, 47, 49, 51 et 53, on a le gouvernement de Sancho Panza dans son île. Et on voit qu'il y a des interruptions parce que sont entremêlés à ces chapitres de Sancho gouverneur les chapitres des aventures de Don Quichotte dans la cour, entre guillemets, du duc et de la duchesse, et en particulier avec Altasidora ou avec la dueña Rodriguez. Et ces cinq scènes de Sancho gouverneur, depuis sa prise de possession de l'île jusqu'au moment de son renoncement, font suite à deux grands chapitres dans lesquels Don Quichotte donne ses conseils à Sancho pour qu'il soit le meilleur gouverneur possible, des conseils qui portent à la fois, comme le dit le texte, sur son âme et sur son corps, la manière d'être, de se vêtir, de se comporter, la civilité qui sied à un gouverneur, et d'autre part des conseils qui sont dans l'ordre de la morale et de la politique. C'est un passage très important de sept chapitres, les deux de conseil plus les cinq de Sancho gouverneur dans la seconde partie de Don Quichotte, que l'on peut commenter d'abord en rapport avec le thème de l'île, puisque, comme on le sait, depuis la Renaissance, depuis Thomas More et son utopie, l'île est perçue, pensée comme le lieu possible du gouvernement parfait, d'un gouvernement qui, parce qu'il est séparé des continents, peut être une expérience de perfection du bon gouvernement dans cet espace spécifique. Il y a donc une dimension utopique derrière l'idée de l'île et de son gouvernement. Et c'est avec cette dimension que joue évidemment Cervantes, puisque d'un côté, ici, cette île n'est pas vraiment une île. Sancho ne se préoccupe pas tellement de voir s'il s'agit bien ou non d'une île, et c'est une bourgade qui lui est donnée, où tous les habitants, qui sont des sujets du duc, jouent le jeu de cette plaisanterie et de cette fiction d'être les sujets maintenant de gouverneur Sancho Panza. C'est donc une île qui n'en est pas une. Et d'autre part, on pourrait dire que c'est une île dans laquelle, qui n'en est pas une, dans laquelle comme un monde à l'envers est donné à lire au lecteur, puisque ce gouverneur qui doit assurer le gouvernement parfait est Sancho, qui est celui qui ne sait ni lire ni écrire. Tout au plus, dit-il plusieurs fois, qu'il sait signer. Qui d'ailleurs, entre parenthèses, est un détail très intéressant, puisqu'on peut voir que la capacité à signer n'était pas nécessairement liée à la maîtrise de la lecture et l'écriture, ce qui laisse quelques difficultés pour l'interprétation de toutes les statistiques fondées sur les signatures pour établir des taux d'alphabétisation. Alors donc, c'est une île qui a cette double aspect d'être l'utopie blessée ou fracturée par le fait qu'elle s'agit d'un bourg et d'une bourgade dans les terres du duc, et d'autre part par le fait de cette inversion du bon gouvernement lettré en un gouvernement confié à celui qui n'a aucune lettre, ne sait ni lire ni écrire. Alors les chapitres de Sancho gouverneur sont des chapitres où Sancho, dès son prise de possession, est juge. Et il juge toute une série de cas, dès le chapitre 45, qui sont en fait des cas qui Cervantes puise dans une tradition de contes ou d'historiettes folkloriques, le cas d'un tailleur et d'un paysan, d'un prêteur et de son débiteur, ou celui d'une femme qui prétend avoir été séduite, et dans le texte de Cervantes, de manière beaucoup plus crue et directe, d'avoir été forcée ou violée par un voisin porcher, et où Sancho juge en faisant donner une somme d'argent à cette femme, et ensuite en enjoignant au supposé violeur de la poursuivre et d'essayer de lui arracher cette somme d'argent, ce à quoi elle résiste, et Sancho conclut que si elle avait pu résister pour préserver son argent, elle aurait pu sans doute résister pour préserver sa vertu. Donc c'est ces trois histoires tout à fait folkloriques qui appartiennent à un répertoire remis là dans ce chapitre 47. Ensuite, Sancho est aussi juge une seconde fois lorsqu'il fait une ronde nocturne dans sa supposée île et rencontre une série de cas où il lui faut trancher ou de plaignants qu'il lui faut satisfaire. Ces chapitres ont aussi une scène tout à fait fondamentale, on verra pourquoi. C'est une scène où Sancho, comme gouverneur, prétend dîner, il aime à dîner bien Sancho, et un médecin lui retire tous les plats les uns après les autres sous prétexte qu'il pourrait nuire à sa santé. C'est le chapitre 47. Et cette scène existe évidemment dans Le Quichotte, mais elle existe aussi dans l'appropriation que fera Molière dans son Don Juan de cette figure de Sancho portée sur Sganarelle, puisqu'il y a la même scène de Sganarelle, mais très brève, qui, chaque fois qu'un plat lui apparaît, il lui est soustrait. Et finalement, il y a la dernière scène, qui est la scène 53, où pour se moquer de Sancho, le duc lui envoie une lettre disant que certains ennemis veulent envahir l'île, et effectivement, de faux ennemis envahissent cette fausse île, et Sancho est berné, il est même battu, enfermé dans deux pavois, comme dit le texte, et du coup décide de renoncer à ce rôle de gouverneur. C'est ce qu'on trouve par exemple dans Le Quichotte à la page 1200, enfin dans ce chapitre 53, où Sancho déclare: Dieu vous garde, messieurs, et dites à Monseigneur le Duc que tout nu je naquis et tout nu je me trouve. Je ne perds ni ne gagne, je veux dire que je suis entré sans un sou dans ce gouvernement et que je le quitte de même, tout au rebours de la façon dont quittent le leur les gouvernants d'autres îles. Et il y a ce renoncement, et c'est une scène très aussi d'un motif. Je disais que le motif utopique de l'île servait de toile de fond à ces cinq chapitres du gouvernement de Sancho, et plus généralement à la présence de la fameuse île dont il doit devenir gouverneur dans la première et la seconde partie de l'histoire. Mais aussi, le thème ici est celui de l'abdication, du renoncement volontaire au pouvoir, et qui, en quelque sorte, si le monde à l'envers de l'île transforme la vision utopique en une réalité burlesque, ici, c'est cette réalité burlesque d'un Sancho battu ridicule et qui déclare « Je ne suis pas né pour être gouverneur ni pour défendre île ni cité des ennemis qui le voudraient assaillir. Je m'y entends mieux à labourer et fouiller, à tailler et marcoter la vigne qu'à donner des lois ou défendre province et royaume. Saint-Pierre est fort bien à Rome, je veux dire que chacun se trouve bien à faire le métier pour lequel il est né. » Et cette figure du renoncement volontaire, de l'abdication, qui a été traitée récemment dans un très beau livre par Jacques Lebrun, est une figure ici où, au comique de Sancho renonçant à ce pourquoi il n'était pas fait, se lit quelque chose de différent, puisque, comme vous l'avez entendu, il quitte l'île sans profit, alors que les autres gouverneurs d'autres îles, eux, accumulent les richesses. Et donc, du coup, ce qui est avant utilisé par Cervantes ici dans cet renoncement de Sancho, c'est une critique politique contre les abus, les excès, les prévarications d'un certain nombre de puissants. Et ce qui fait que Sancho entrait comme gouverneur, comme personnage ridicule et grotesque dont les autres se moquent, Au moment de quitter l'île, d'autres de ceux qui l'ont en ont fait leur dupe déclarent que ce qui était le plus fascinant ou important était ce mélange de sottise et de sagesse que Sancho a montré. Et donc on voit qu'à partir du retournement quasi carnavalesque et comique du motif de l'île, lieu du bon gouvernement, Cervantes introduit ou insinue une autre morale, qui est celle que cet illettré, finalement, pouvait gouverner avec plus de bon sens et moins de cupidité que certains des gouvernants. C'est ce qui fait l'intérêt de ces chapitres, me semble-t-il, du gouvernement du Sancho au cœur de la deuxième partie du Quichotte. Mais, comme vous l'avez entendu, il n'y a jamais dans la bouche de Sancho aucun commentaire de la justice dans ses représentations peintes. Et c'est là un écart que Antonio José da Silva, dans son appropriation inventive du texte de Cervantes, introduit, puisque il commente, Sancho de Antonio José da Silva, il commente une allégorie de la justice, c'est-à-dire une justice en peinture. Et le texte qui vient du fait que le juge lui demande « Or ça, dites-moi, pourquoi t'on peint la justice les yeux bandés, le glaive dans une main et la balance dans l'autre ? Je ne puis m'expliquer cette énigme et personne ne peut me la résoudre, tandis que vous allez assurément me donner la solution puisque vous êtes si savant. » Donc un ton ironique de se moquer de lui, puisque tout le monde sait que Sancho est illettré et qu'il est gouverneur simplement de cette île de fantaisie par la volonté de plaisanterie du duc. Et Sancho répond, dans le texte portugais de Da Silva et pas dans le texte original espagnol de Cervantes, « Prêtez-moi attention, juge. Sachez d'abord que la justice dont il est question n'est qu'une peinture, et qu'il n'y a pas au monde de femme semblable, en chair et en os, pareille, verbigratia, que Madame Dulcinée de Toboso, ni plus ni moins. Mais comme une figure, comme celle-là était nécessaire sur terre pour faire peur aux grands personnages, comme le croque-mitaine pour faire peur aux enfants, on a peint une femme habillée, comme dans les tragédies, car toute justice finit tragiquement. On lui a bandé les yeux parce qu'on dit qu'elle était bigleuse, qu'elle louchait, et qu'elle avait un œil qui disait « zut à l'autre », c'est la traduction de Madame Pivnik. Alors, comme la justice doit être un modèle de rectitude, pour qu'on ne remarque pas ce défaut, on s'est empressé de lui couvrir les yeux. Le glaive dans sa main signifie qu'elle agira en tous sens, c'est-à-dire à tort et à travers. Les savants qui se sont penchés sur cette matière ne disent pas s'il s'agit d'une rapière, d'une flamberge, d'une colichemarde, mais moi, je tiens que c'est une épée qui a une lame de fond, une coquille Saint-Jacques, un talon d'Achille, une garde d'honneur et un pommeau cuit au four. Dans l'autre main, la balance qu'elle tient est faite de deux demi-pastèques, comme en ont les gamins, et son fléau n'est guère fiable. Mais malgré cela, elle se conduit plutôt bien, car c'est une fille très raisonnable, si on ne la dévergonde pas. Un jour, je pourrais soutenir une thèse sur cette matière, car je dois vous dire que j'ai bu tout jeune le lait de la justice. Mais les aventures du seigneur Don Quichotte m'ont fait abandonner les grimoires pour les bagarres. » Alors, on a là la traduction, d'ailleurs, difficile d'un passage très dense du texte d'Antonio José da Silva. Et le Sancho de da Silva, comme on le voit, est un Sancho plus lettré, plus cultivé que le Sancho de Cervantes. Et il est capable entrer dans ce monde du droit. Il dicte un testament, il énumère des jurisconsultes, bien sûr tout cela de fantaisie et de parodie satirique par rapport à la fois au corpus des juristes médiévaux ou renaissants et par rapport au formulaire des testaments. Mais néanmoins, c'est un Sancho qui n'est pas totalement extérieur, comme l'est celui de Cervantes, à ce monde de la culture écrite. Et ici, il donne donc sa glose de la justice, les yeux bandés, la glaive et la balance. Alors, dans le film d'Azulay, cette scène a été reprise, spectaculaire, Sancho, qui commente ici une allégorie en forme de statue de la justice, alors que le texte de da Silva mentionne les allégories peintes. Il a, le film suit assez fidèlement certains traits de la description faite, des descriptions explicatives faites par Sancho, pourquoi la justice est-elle les yeux bandés, parce que effectivement, elle était vesga, elle était bigleuse, elle louchait, et mettia un oio por outro, elle mettait un oeil à la place de l'autre. Donc, il fallait lui bander les yeux. D'autre part, pourquoi a-t-elle une épée? Parce qu'elle lève cette épée, et là, la citation est très littérale, a torto e direito, à tort et à travers. Et pourquoi a-t-elle une balance? Parce que c'est une balance qui, en fait, non tem fiu, nem fiador, qui n'a pas d'équilibre, qui n'est pas juste. Ce que le film ajoute à la description de la pièce, c'est évidemment la réplique finale où la justice se trouve sodomisée par Sancho dans une forme de dérision extrême. Rien de cela dans le texte qui d'ailleurs n'aurait sans doute pas pu passer au Teatro do Beiro Alto en 1733 avec cette allusion que Azulay a introduit dans son film. Alors la question qui se pose là et que je reprendrai plus tard dans la fin de cet exposé sur cette pièce, à mon avis très passionnante, c'est la question du rapport entre ce qui est dit de la justice, de la centralité de la justice dans la pièce de Antonio José da Silva et du destin lui-même de Antonio José da Silva, qui, comme je le rappelais, confronte trois fois l'Inquisition, deux fois avant de commencer une carrière de dramaturge, dont la première expression est ce Vida do Grande Don Quixote de Mancha, et d'autre part, après, à la fin de cette carrière, à la fin, puisque dans le dernier procès qui lui est fait, il est condamné et il sera brûlé à Lisbonne. Et cette trajectoire-là, c'est un autre lien que je voudrais établir avec les cours de cette année, au moins cette partie-là du cours. Elle a été restituée avec érudition, minutie, par mon collègue Nathan Vachtel, qui, dans deux livres, La foi du souvenir et la logique des bûchers, a étudié avec un soin méticuleux les procès d'inquisition faits à un certain nombre de conversos, de juifs convertis au christianisme, vivant au Brésil et amenés devant le tribunal de l'Inquisition à Lisbonne. Et l'ensemble de la famille d'Antonio José da Silva est présente dans différents moments de ces procès et présente du coup dans les deux livres de Nathan Vachtel. Alors on peut laisser ouvert cette question, puisque c'est une question à la fois historique. Antonio José da Silva faisait-il passer dans certaines de ses pièces quelque chose de sa propre et douloureuse expérience? Et c'est une question plus théorique, c'est-à-dire est-ce que l'on écrit de la littérature, entre guillemets, quelle qu'elle soit, avec la vie? Donc on peut laisser ça de côté pour commencer simplement à dévider un premier fil de cette analyse de la pièce d'Antonio José da Silva, c'est-à-dire le fil qui nous conduit aux appropriations théâtrales de la seconde partie de Don Quichotte. Cette seconde partie est publiée en 1615 à Madrid, imprimée par le même atelier que le texte de 1605, l'atelier de Juan de la Cuesta, qui d'ailleurs n'était plus du tout là présent, mais ses héritiers et sa veuve continuaient à faire fonctionner cet atelier qui avait gardé l'emblème et le nom de Juan de la Cuesta, et d'autre part une édition qui a été voulue par le libraire Francisco de Robles. Cette publication en 1615 suit de très peu la publication en 1614 d'une seconde partie de Don Quichotte, mais qui anticipait celle de Cervantes, une seconde partie apocryphe due à un auteur qui se présente comme sur la page de titre Avellaneda, dont l'identité n'a jamais été totalement établie, mais qui avait tiré profit du très grand succès de la du livre de 1605 pour devancer Cervantes dans la publication, espérait-il, je suppose, rentable, d'une seconde partie qui reprend les personnages de Cervantes, qui en ajoute d'autres, et qui utilise comme un des éléments de l'intrigue ce qui était dit à la fin du livre de 1605, c'est-à-dire que la troisième sortie de Don Quichotte, la tercera salida, était pour participer au tournoi et aux joutes de Saragosse. Et effectivement, Avellaneda, le supposé, enfin, le Avellaneda comme auteur, utilise comme élément de point de départ cette troisième sortie de Don Quichotte. Et un des intérêts de la seconde partie du Quichotte, c'est que, évidemment, peut-être au cours de sa rédaction, dont Cervantes se rend compte de la présence de cette continuation apocryphe, et il lui répond de deux façons. D'une part, dans les préliminaires, où il fait plusieurs allusions au lecteur qui, sans doute, a déjà rencontré cette seconde partie. Il récuse les accusations lancées par Avellaneda. Le tourne en ridicule avec ce pseudonyme, et en plus, sans doute, un lieu de naissance qui était Tordesillas, qui est inventé. Donc, il y a une réponse dans les préliminaires et il y a une réponse dans le texte lui-même, puisqu'à partir du chapitre 59, le livre d'Avellaneda est omniprésent. Les personnages du Quichotte le lisent, s'en moquent, y font allusion. Donc, c'est une capture par Cervantes de cette continuation apocryphe pour en faire un objet de moquerie, de ridicule ou de mépris, jusqu'à un point qui est qu'à un moment donné, Don Quichotte et Sancho rencontrent un des personnages inventés par Avellaneda dans leur chemin de retour dans sa maison. Et ce personnage, qui s'appelle Don Alvaro Tarfe, doit prêter serment que le Don Quichotte qu'il a connu dans le livre dont il est un des personnages n'est pas le véritable Don Quichotte qu'il vient de rencontrer à l'instant. Il y a donc un jeu vertigineux de Cervantes pour incorporer cette continuation apocryphe dans sa propre écriture. On a donc la seconde partie, je ne vais pas la résumer, mais vous en avez vu déjà des éléments tout à fait essentiels, la partie centrale étant ce Don Quichotte entrant dans la maison du duc et de la duchesse, ce qui a pu être aussi interprété comme un Don Quichotte qui est, dans un certain sens, plus courtisan que militaire. Si le Don Quichotte de 1605 suit les héros des romans de chevalerie pour guerroyer contre ceux qu'il croit être des ennemis et qui peuvent être, comme vous le savez, des moulins à vent ou des moutons. Le Don Quichotte de la deuxième partie, ce qui permet une autre moquerie, une autre ironie, est un Don Quichotte qui, à partir du moment où il entre dans la cour du duc et de la duchesse, est pris dans une satire de la vie courtisane et aristocratique. Donc la matière qui pouvait être la plus immédiatement appréhendée de cette seconde partie pour faire du théâtre, un peu sur le modèle que j'évoquais des histoires brèves ou des novellas de la première partie, étaient ces chapitres, ces cinq ou sept, si on ajoute les conseils de Don Quichotte, de Sancho comme gouverneur de son île. Dans le texte de Cervantes, cette île a pour nom Barataria, et dans l'adaptation, la réinterprétation d'Antonio José da Silva, c'est l'île dos Lagartos, l'île des lézards. Et c'est ainsi que la première pièce qui met en son centre les chapitres de Sancho Gouverneur est une pièce française, publiée en 1642, et elle est due à un auteur que nous avions rencontré il y a deux ans ou trois ans, Daniel Guérin de Bouscal, qui est un auteur de trois pièces appuyées sur le Don Quichotte, publié en 1640, un Don Quichotte de la Manche. Cette même année, 1640, aussi un Don Quichotte de la Manche, seconde partie, dans les deux cas sans nom de titre, mais la pièce lui a été attribuée clairement à partir du XVIIIe siècle. Et en 1642, la publication de ce gouvernement de Sancho Panza, qui est la première des pièces est de 1639. La trilogie, c'est 1639, le Don Quichotte de la Manche, 1640, Don Quichotte de la Manche, seconde partie, et 1642, le gouvernement de Sancho Panza, qui est un livre publié par deux libraires du palais, Sommaville et Courbet. On avait rencontré Guérin de Bouscal parce que dans le premier de ces Don Quichotte, il avait lui aussi, s'était emparé lui aussi de l'histoire de Cardenio. Et c'est sous cet angle-là que j'avais étudié sa pièce, même si le personnage principal en était Don Quichotte, l'intrigue secondaire des amours des quatre jeunes gens était tout à fait présente. C'est un auteur qui est né en Languedoc en 1613, sans doute dans une famille protestante, lui-même converti au catholicisme, et qui a, hors cette trilogie de Don Quichotte et Sancho Panza, écrit six tragicomédies et deux tragédies durant des années parisiennes entre 1634 et 1645. Et ensuite, il retourne en Languedoc. Et le premier Don Quichotte est intéressant, non seulement parce qu'il pouvait être une pièce à l'intérieur de l'enquête sur le Cardenio perdu, mais aussi parce que c'était la première pièce qui utilisait, dans son dernier acte, le second partie de Don Quichotte de 1615. Non pas le gouvernement de Sancho Panza, qu'il garde pour une pièce à part, mais déjà un certain nombre d'histoires, d'aventures ou mésaventures créé à Don Quichotte par le duc et la duchesse et tous ceux qui entrent dans leur jeu pour se moquer de Don Quichotte. Et l'autre trait intéressant dans cette pièce qu'on avait évoquée, le premier Don Quichotte, celui de 1639, c'était le fait que Guérin de Bouscal y parodiait très volontiers que la manière d'écrire de Corneille. Et il y a dans cette pièce la reprise de figures d'écriture qui sont très typiquement celles de Corneille. Et c'est une constante, parce que dans le gouvernement de Sancho Panza de 1642, on retrouverait la même dimension d'une sorte, ici plus explicite, d'un pratiquement un pastiche du Cid de Corneille, dans ce que un collègue irlandais, Caldicott, qui a publié cette pièce en 1968, je crois, dans une édition publiée chez Drose, 1981 chez Drose, dont la préface très précise montre qu'il y a sans doute là une forme de burlesque humaniste, c'est-à-dire burlesque dans la mesure où le registre de la parodie, de la satire et du pastiche est extrêmement présent. Le troisième acte de la pièce est pour partie un pastiche du Cid, et d'autre part humaniste, parce que Guérin de Bouscal appartient, ou du moins appartenait lorsqu'il était dans ses années parisiennes, à un milieu qui pouvait être assez proche des libertins érudits. Et dans la pièce, il y a de très nombreuses références ou citations de Rabelais interprétées dans cette perspective d'une catégorie de burlesque humaniste. La deuxième trait intéressant dans l'histoire de cette première adaptation de la seconde partie, le gouvernement de Sancho Panza par Guérin de Bouscal en 1642, c'est le fait qu'il y a un lien qui s'établit entre cette pièce et Molière. Ce lien est peut-être un lien de type biographique, dans la mesure où, retourné en Languedoc, Guérin de Bouscal possiblement a pu rencontrer Molière lorsque la troupe de Molière, l'illustre théâtre, était souvent invitée contre paiement, à donner des représentations soit pour des entrées du gouverneur ou de ses lieutenants dans telle ou telle ville, soit pour les assemblées des États de Languedoc. Et pendant la période 1547-1553, la troupe de Molière est itinérante dans le Languedoc, entre Pézenas, Montpellier et d'autres, Toulouse, d'autres villes où les trois lieutenants généraux du gouverneur de Languedoc, qui était Gaston d'Orléans, et les États de Languedoc convient la troupe à donner des représentations lors de l'événement politique. Et comme Guérin de Bouscal était très lié avec ses lieutenants généraux du gouverneur, on peut supposer, c'est ce que fait Caldicott, qu'il y a eu une rencontre entre la troupe et Molière d'une part et d'autre part Guérin de Bouscal. Le deuxième trait est le fait que la pièce de gouvernement de Sancho Panza va être approprié par Molière, qui va la jouer avec sa troupe très fréquemment lorsqu'il rentre à Paris en 1659. On a un registre qui, d'ailleurs, très heureusement, a été publié dans le supplément des deux tomes de l'édition récente de Molière de la Pléiade, qui énumère toutes, jour par jour, les recettes et le titre de la pièce jouée ou des pièces jouées. Et l'on voit que ce gouvernement de Sancho Panza, de Guérin de Bouscal, qui date de 1642, est repris plus de 15 ans après par Molière, qui joue 8 fois la pièce, 8 fois en 1659, donc l'année de l'installation à Paris, 7 fois en 1660, 3 fois en 61, 3 fois en 62. Donc c'est une pièce qui appartient au répertoire de troupe de Molière, et sans doute Molière reprenant le personnage de Sancho, qui avait été, on peut l'imaginer à la création, joué par un acteur dont il reprend les rôles, et qui était Jodelet, qui appartenait à la troupe de l'hôtel du Marais. Et une anecdote qui est rapportée par Grimaret dans sa vie de Molière en 1705 est une anecdote où Molière, monté sur l'âne de Sancho, ne peut entrer en scène parce que l'âne ne veut pas aller du côté de la scène mais du côté des coulisses. Et Grimaret écrit que cette fête était arrivée dans une pièce que l'on avait prise dans le temps que Don Quichotte installe Sancho Panza dans son gouvernement. Et avant, entre cette anecdote qui porte donc sur les années 1660 et 1642, date de la pièce de Guérin de Bouscal, on ne connaît pas d'autres pièces françaises qui soient des adaptations de du gouvernement de Sancho. Donc il est très vraisemblable que cette anecdote se réfère à l'une de ces nombreuses représentations de la pièce de Guérin de Bouscal par la troupe de Molière, qui fait qu'à partir de là, cette pièce pourrait avoir été l'intermédiaire entre le texte de Cervantes et le Don Juan de Molière pour cette scène où Sganarel Sancho voit les plats lui être soustraits alors qu'il voudrait pouvoir dîner. Dans le texte de Cervantes, on a le texte ainsi. « La musique s'arrêta, Sancho s'assit au bout de la table, car il n'y avait qu'un siège et rien d'autre autour. » Donc c'est cette fiction qu'il est le gouverneur. On lui rend hommage et soumission. « À côté de lui vint se mettre debout un personnage qui, par la suite, se révéla être médecin et qui tenait une baguette de baleine à la main. » Alors le repas commence et le personnage médecin lui dit « On ne doit ici manger, monsieur le gouverneur, que suivant les us et coutumes des autres îles où il y a des gouverneurs. Moi, monseigneur, je suis médecin et suis payé dans cette île pour être médecin des gouverneurs. Je veille donc sur leur santé avec plus de soin que sur la mienne. J'étudie nuit et jour et j'examine la complexion du gouverneur pour savoir le guérir s'il venait à tomber malade. Et l'essentiel de ma tâche est d'assister à ses dîners et soupers, à lui laisser manger ce qui me paraît lui convenir et à lui retirer tout ce que je crois devoir lui faire du mal et être nocif à son estomac. Aussi ai-je fait enlever le plateau de fruits parce qu'ils étaient trop humides et l'autre plat je l'ai également fait enlever parce qu'il vous eût échauffé. Il y avait trop d'épices, ce qui excite la soif. Or celui qui boit consume et éteint l'humide radical en quoi consiste la vie. Alors Sancho proteste contre cette chose-là en disant qu'il va peut-être pouvoir manger ce plat-là de perdrix. Monsieur le gouverneur n'en touchera pas une tant que je serai en vie. Et pourquoi, dit Sancho. Le médecin répondit, parce que notre maître Hippocrate, nor et lumière de la médecine, dit dans l'un de ses aphoristes, omnis salutatio mala perdicis autem pessima, ce qui veut dire toute indigestion est mauvaise, mais celle de perdrix est la pire. Et alors la scène se développe de cette manière. Et alors Antonio José da Silva, évidemment, l'utilise et la concentre. Et c'est la scène 5 de la deuxième partie de sa pièce. Et entre les deux, Molière la réutilise pour la donner à Sganarelle dans une des dernières scènes du Festin de Pierre, autrement connu comme Don Juan. Donc on a là la première pièce qui s'empare de la seconde partie du Quichotte et qui, selon l'usage de Guérin de Bouscal, évidemment est assez peu porter invention, par exemple en bousculant la chronologie des événements tels qu'ils sont rapportés dans Don Quichotte, mais en même temps reste très fidèle aux scènes de l'histoire. Et les cinq actes en vers de la pièce de Guérin de Bouscal, non seulement, comme je le disais, ont des aspects de parodie de la versification ou de la thématique de Corneille, mais développent finalement les cinq chapitres sans les suivre strictement de Don Quichotte, avec d'abord dans le premier acte l'entrée de Sancho dans son île, et on lui donne les clés de cette île. Ensuite, au deuxième acte, les conseils de Don Quichotte à Sancho pour se bien conduire, et où effectivement la justice tient un rôle tout à fait fondamental. Antonio José da Silva va renforcer le trait. En particulier, on l'a vu avec cette scène de l'allégorie de la justice qui n'a pas plus d'existence, ou pas moins que Dulciné del Toboso, c'est-à-dire qu'elle en a peu. Et en même temps, il s'appuie sur, non pas une scène semblable dans le Quichotte, mais sur les conseils nombreux que donne Don Quichotte sur la manière d'exercer la justice, qui renvoie à un thème fondamental, qui est que l'exercice du pouvoir dans les sociétés de la première modernité est fondamentalement l'exercice de la justice. Et le premier attribut du souverain ou du puissant est le fait de rendre la justice. Et donc, Guérin de Bouscal reprend cette partie des conseils et, dans cet acte 2, introduit un des jugements de Sancho qui était lié au moment où il fait une ronde dans son Nil. Donc, il bouscule un peu la chronologie, mais associe les conseils de Don Quichotte avec ce premier jugement de Sancho. L'opte 3, qui est celui où se rencontre cette parodie très claire du Cid, est aussi l'acte dans lequel se rencontre une réinterprétation de l'histoire de la femme séduite et brutalisée ou violée, et finalement avec ce dénouement qui montre que peut-être elle a menti. La scène 4 est celle du banquet, donc le Sancho dans l'incapacité de dîner. Et la dernière est celle des alarmes successives et de l'invasion par les ennemis supposés de l'île et finalement du départ et de la résignation de Sancho qui abandonne sa charge. On a donc là un premier jalon dans cette histoire des adaptations de la seconde partie du Quichotte. Pour conclure aujourd'hui, j'aimerais terminer avec un second jalon qui n'est pas une adaptation du gouvernement de Sancho, mais qui est une adaptation d'autres multiples aventures qui se rencontrent dans cette seconde partie. Et ce second jalon est un jalon espagnol, c'est la troisième comédia qui est voué à Don Quichotte. La première, nous l'avions étudiée avec beaucoup de soin, c'est la Commedia de Guillén de Castro de 1605-1608, Don Quixote et la Mancha, et qui est importante parce que même si le titre utilise la renommée de Don Quichotte, déjà établie dès 1605 par les 5 éditions qui ont été publiées la seule année 1605. 2 à Madrid, 2 à Lisbonne et 1 à Valence. En même temps, le contenu fondamental, la thématique essentielle de cette commedia, c'est les amours de Cardenio, Lucinda, Dorothea et Fernando. Et donc, on a une de ces figures dans laquelle une pièce qui a pour titre Don Quichotte, évidemment inclut Don Quichotte, mais l'inclut dans les marges des actes, parce que souvent il intervient dans les fins d'actes, et d'autre part dans un rôle qui est ce rôle de personnage comique, grotesque, ridicule, qui dans un certain sens fait de Don Quichotte une incarnation d'un des personnages classiques de la commedia, qui est le gracioso de commedia, le personnage qui doit faire rire. Comme si là, son rôle était dédoublé entre Sancho, gracioso par excellence, et d'autre part, Don Quichotte, que, comme le dit un des autres personnages de la pièce, el loco es gracioso, le fou est divertissant, ou le divertissant, le comique, est fou. La deuxième commedia est perdue, mais on a une trace qui est d'une écriture par Calderón, et le texte n'existe pas. Et la troisième, en 1637, a pour titre El Hidalgo de la Mancha. C'est une pièce doublement intéressante, même si elle nous éloigne du gouvernement de Sancho, dans la mesure où c'est une pièce écrite par 3 auteurs, Matos Fragoso, Diamante et Vélez de Guevara, ce qui renvoie à une réalité qu'on a parfois oubliée, c'est-à-dire l'écriture en collaboration comme une forme importante, parfois dominante, de l'écriture de certains genres, entre autres le théâtre. Et c'est évidemment un thème qui est fondamental dans l'étude du théâtre anglais de la fin du XVIe et du XVIIe siècle, avec une pratique de la collaboration extrêmement répandue, comme le montrent non pas les pages de titre des éditions, qui très souvent ne mentionnent pas les auteurs, ou quand elles mentionnent un auteur, au maximum 2, mais comme le montre un registre de comptes tenu par un entrepreneur de théâtre, Philip Henslow, et qui, jour après jour, donnait les sommes qu'il avait payées pour telle ou telle pièce à tel ou tel écrivain. Et l'on voit que les 2/3 des pièces sont payées à 2, 3, 4 ou plus d'auteurs. Donc l'écriture en collaboration avec toutes ses formes, on peut en revenir sur ce thème, c'est-à-dire soit le canevas établi par un auteur et les vers ou la prose écrite par d'autres, ou bien la division du texte entre différents actes et scènes, ou bien une collaboration plus poussée dans l'acte même de l'écriture, est une réalité fondamentale. Et une des révisions actuelles de Shakespeare, c'est évidemment de traiter Shakespeare comme collaborateur, ou d'avoir écrit en collaboration plus que on ne le pensait que traditionnellement ou classiquement. Donc on a là une réalité, c'est une réalité qui existe aussi dans le cas français, peut-être moins développée, mais enfin quand on pense aux grandes pièces de Molière jouées à la cour, la princesse des Lides à l'intérieur de la fête des plaisirs de l'île enchantée, et beaucoup de ces divertissements de cour sont des résultats de collaboration. Et avant même, on sait que Richelieu avait créé autour de lui une société d'auteurs qui devait mettre des vers sur les canevas ou les intrigues qu'il leur donnait. Et dans le cas des comédias espagnoles aussi, on rencontre cette forme de l'écriture en collaboration, ce Don Quichotte de la Manche de 1673, qui est la seconde partie appropriée sur la scène du théâtre, la scène du choral, est écrite en collaboration. Et d'autre part, deuxième réalité importante, cette pièce n'a jamais été imprimée, sauf dans une édition récente, et donc elle n'existe que dans une copie manuscrite, ce qui est un autre trait que le théâtre français nous a fait sans doute sous-estimer, c'est-à-dire la très grande part de textes qui sont représentés mais qui ne sont jamais imprimés, pour différentes raisons, non seulement celles par lesquelles j'ai commencé, réticence des pièces, des troupes à faire imprimer des textes qui ensuite peuvent être joués par leurs rivaux, réticence des auteurs pour faire imprimer des pièces qui ne rendent pas justice à un texte fait pour être joué. Mais au-delà même, le fait que, au moins en Espagne et en Angleterre, le rythme de représentation est si intense que de très nombreuses pièces, sans doute une majorité, ne sont jamais imprimées, comme si aussi le marché des lecteurs n'était pas extensible à l'infini et pouvait être saturé pour tous ceux qui voulaient voir des pièces sans nécessairement vouloir ou pouvoir les lire. Ce qui fait qu'on a pu estimer que peut-être les deux tiers des pièces anglaises, c'est plus qu'estimé, on a pu établir que les deux tiers des pièces anglaises pour lesquelles on a des titres ne correspondent à aucune édition imprimée dont aurait subsisté au moins un exemplaire. Donc le théâtre nous confronte à une réalité textuelle qui est assez proche finalement de la réalité textuelle du monde antique, dans laquelle un nombre considérable d'œuvres ne sont connues que par la mention de leur titre ou éventuellement des extraits qui en ont été établis dans des anthologies ou des compilations. Et le continent des textes perdus est tout à fait immense. Et dans le cas du théâtre au moins anglais, la comparaison n'est pas sans pertinence. Alors je reprendrai cette histoire des adaptations de la seconde partie du Quichotte dans 15 jours, avec l'autre dimension qu'il nous faut prendre en considération, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'écrire pour le théâtre des marionnettes et comment peut-on penser les marionnettes entre leur destin populaire, théâtre de la foire, théâtre itinérant, et d'autre part, ce qui est le cas du Beiro Alto. Et ici, le film de Azoulay ne donne pas nécessairement une idée fausse du public, qui est un public mêlé, mais où participent les aristocrates, la petite noblesse, la bourgeoisie lisboète, en même temps qu'un public peut-être plus populaire. Donc, cette tension qui habite le théâtre des marionnettes et qui peut d'ailleurs avoir une traduction technique, qu'est-ce que sont les marionnettes du XVIIe siècle ? Voilà.